Vous écoutez
RMC. RMC, le dossier des GG.
Il reste debout Chabal. Oui, il reste debout. Énorme. Énorme Sébastien Chabal qui vient de marquer un essai ici sur cette pelouse de Twickenham.
Oh, Chabal, il est passé. Il est passé. Oh, quel but. Il déborde Chabal. Il est énorme. Il va y aller. Il va y aller.
Et oui, bon, on se souvient, nous, de ces moments. Sébastien Chabal, évidemment, lui ne s'en souvient pas. C'est ce qu'il a déclaré cette semaine. Dans un instant, on va en reparler avec David Broge, neurochirurgien. On sera également avec Philippe Dintrance pour un autre témoignage d'un ancien international de rugby. Mais d'abord, on va accueillir les GG pour ouvrir ce dossier. Nicolas Paul Orsi. Salut, Nico.
Salut les GG, salut à tous.
Rappelle-nous les déclarations de Chabal cette semaine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, elles ont fait en tout cas beaucoup de bruit.
C'était dans le podcast Légende avec le présentateur Guillaume Play que Chabal a commencé à se dévoiler et à parler de l'impact des commotions subies pendant sa carrière.
J'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. J'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby.
Aucun souvenir de match de rugby, mais ses pertes de mémoire n'affectent pas uniquement son passé de joueur.
Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? Bah, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants?
Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai deux, trois souvenirs de... et d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle.
Ah oui, si on t'a raconté.
Si on les a racontés.
Chabal poursuit en disant qu'il redécouvrait à chaque fois que ses proches évoquaient un moment vécu, un souvenir. Pour l'instant, il n'a pas consulté de spécialiste.
Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc?
Non.
Ça va, non?
Quoi faire? La mémoire ne reviendra pas.
La mémoire ne reviendra pas. Ces déclarations ont touché beaucoup de monde. Anciens entraîneurs, anciens coéquipiers. Pascal Papé, l'ex-deuxième ligne, par exemple, est bouleversé par la situation de son ami.
Un peu étonné, hein, mais surtout inquiet par rapport aux propos de Seb, par rapport à sa situation. C'est grave, hein, quand même, parce que quand tu te souviens pas au moins de la première Marseillaise et même au niveau personnel de la naissance de tes enfants, ça m'inquiète. Je me souviens quand même, quand je me remémore mes matchs, j'arrive à me souvenir d'actions, ouais. Évidemment, l'après-match, l'avant-match. Bien sûr, je me rappelle de la naissance de mes trois enfants. Je suis inquiet par rapport à Seb, parce que c'est une situation qui est pas normale.
Les déclarations de Sébastien Chabal relancent le débat sur la prévention et le danger des commotions dans le rugby, même si énormément de choses ont été mises en place pour lutter contre ces faits de jeu. Bien sûr, le protocole commotion, les joueurs portent désormais des protège-dents connectés qui préviennent les staffs en cas de commotion. Et puis je termine avec un chiffre. En 2018, une étude publiée sur le site Science Direct recensait qu'en moyenne, une commotion cérébrale était subie tous les trois matchs par un membre d'un effectif.
Et ben on va en parler de tout ça, notamment de ce protocole commotion. Merci beaucoup Nico, bon week-end à toi. Pour en parler justement avec nous les GG, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. L'invité des GG ce matin, c'est le docteur David Broge, neurochirurgien à Toulouse. Bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour.
Merci d'être bonjour, avec bonjour. Nous. Vous travaillez en collaboration avec la Fédération française de rugby. Faut juste préciser une chose, hein, c'est que Sébastien Chabal n'a pas consulté, lui, de médecin, et notamment pas de neurologue. C'est lui qui imagine que ces troubles de la mémoire sont dus à ces chocs répétés, à ces commotions. Mais vous qui suivez de nombreux rugbymen, David Broge, le cas Chabal, c'est pas un cas isolé.
Non. En fait, son témoignage, il traduit une réalité scientifique et médicale dont on se doute depuis longtemps, d'abord pour les sports de combat, et puis maintenant, ça a pris de l'ampleur parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de sports d'équipe, donc qui ont été pratiqués par beaucoup de gens, peuvent être concernés, quoi. Et c'est la raison pour laquelle, avec la médiatisation de ces questions depuis quelques années, eh bien, il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les cabinets de consultation.
Même si il dit, et vous l'avez entendu peut-être aussi, que ça sert à rien d'aller consulter, ça sert à rien d'aller voir un neurologue.
Est-ce que ça sert à rien?
Vous avez sans doute envie de lui répondre à Sébastien Chabal, David Broge.
Oui. Non, parce que déjà, quand on est porteur d'un trouble, ce que j'ai pour habitude de dire, c'est que avoir un diagnostic, déjà, ça fait partie du traitement. De savoir un petit peu ce que l'on a, la sévérité, le profil évolutif, et puis après, effectivement, est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer la situation? Mais je pense que ça peut être quand même intéressant, quoi.
Denis Charvet est avec nous. Denis Charvet qui est évidemment bonjour. Ancien international de rugby.
Une interrogation, cette perte de mémoire, elle arrive comment et quand finalement? Parce que ce qui m'étonne, c'est sa déclaration qui est un peu comme une confession qui vient de nulle part. Et comment il s'est rendu compte, comment ça arrive? C'est ça qui me trouble un petit peu dans cette interview.
Monsieur Charvet, si vous permettez d'abord, pour que vous ayez tous les idées claires, je voudrais redéfinir ce qu'est l'entité globale du traumatisme crânien du sportif et donc là aujourd'hui du joueur de rugby. Parce que les choses sont assez facilement mélangées. Mm-hmm. Globalement, le sportif qui fait un sport de contact, ou d'impact ou à haute vitesse, il est exposé à trois types d'accidents. Les traumatismes crâniens graves, donc là, derrière, l'ambiance, c'est coma, séquelles, décès. Ok, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ensuite, vous avez deux autres types de chocs à la tête dont on va parler, là, je pense, ce matin. Ce sont les commotions cérébrales. Commotion cérébrale, donc, c'est un choc qui est suivi de symptômes neurologiques objectivables. Donc, il faut avoir un petit peu d'expérience. Et ensuite, vous avez des symptômes qui apparaissent. Et ces symptômes, en général, ils vont guérir assez rapidement, en quelques jours, quoi. Mais pendant cette période-là, votre mémoire, elle fonctionne pas bien. Et donc, si vous jouez commotionné, eh bien, il est tout à fait possible que vous ne vous souveniez pas du match à la sortie. Ok. Mmh. Je crois qu'il y a un joueur de football.
Je l'ai vécu en tant que joueur, moi, deux fois.
Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti cette anecdote, parce que je sais que ça allait vous parler. Mmh. Je sais qu'il y a un joueur de la Mannschaft, demi-finale de la Coupe du Monde, ne se souvient pas du match, quoi. Donc ça, c'est une possibilité que effectivement il ait une amnésie lacunaire satellite de commotion qu'il aurait eu pendant sa carrière. Mais l'autre question, excusez-moi, laissez-moi terminer. Après, promis, je vous laisserai m'interrompre quand vous voulez. L'autre question que soulève son témoignage, c'est que le sportif, il est exposé à d'autres chocs qui sont pas les gros traumas, pas les commotions cérébrales. Mais quand je joue au rugby, je suis exposé à des multiples chocs répétés lors des actions défensives, de la participation au ruck, au mêlée ou même le passage au sol. Mmh. Et actuellement, une des questions que l'on se pose tous, c'est est-ce que d'accumuler des petits chocs dans la deuxième partie de la vie, comme il l'est actuellement, Monsieur Chabal, ça n'a pas des conséquences sur mes capacités intellectuelles?
Très bien. Okay.
Mais petits chocs, c'est quoi, par exemple, dans la vie?
Je te fais plaquer, ça peut être,
non, mais
ça peut
être un plus, choc. Il joue plus, lui.
Ah oui, des chocs aujourd'hui. Non, mais des chocs qu'il a répétés, qu'il a connu tout au long de sa carrière. Voilà. Mais qui n'ont pas occasionné des traumas crâniens qui ont nécessité un protocole commotion. Bah, à l'époque, il n'y en avait pas des protocoles commotion quand il jouait au rugby. Mais voilà, c'est ça, c'est ce dont vous voulez parler. C'est un arrêt un peu violent, la tête qui touche le sol, tous ces trucs-là, qui ne nécessitent pas forcément de s'arrêter de jouer à ce moment-là.
Ces questions-là, si vous voulez, elles ont été soulevées par la boxe. Et à un moment donné, on s'est posé la question, on s'est dit, mais un joueur qui n'avait finalement pas fait autant de KO que ça dans sa carrière, à la sortie, quand il arrivait vers 50-60 ans, il y avait une maladie neurologique qui apparaissait. Et donc, on s'est dit, est-ce que c'était pas tous ces petits coups de poing qu'il avait pris sans que ça n'entraîne forcément quelque chose sur le moment? Mais dans la deuxième partie, mon cerveau paye la note.
David Broge, neurochirurgien à Toulouse, qui est avec lui, qui connaît bien les rugby.
Le but de la boxe, c'est quand même de provoquer des commotions cérébrales à son adversaire. Mmh. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du rugby, même si un de vos confrères, le professeur Chazal, disait que, a écrit un bouquin qui s'intitule Le rugby tue, et il dit que, justement, les joueurs ne sont pas du tout protégés, même si aujourd'hui il y a des choses qui ont été faites, mais ils sont pas protégés parce que tu peux te faire plaquer un plaquage par l'arrière, parce que tu n'as qu'un bras pour te défendre quand tu es plaqué par des adversaires, tout ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, le rugby est un sport plus dangereux finalement que les sports de combat comme la boxe ou d'autres choses comme ça?
Alors, ouais, ça c'est une question simple pour laquelle c'est difficile de vous répondre de façon manichéenne. Parce que la dangerosité, comment est-ce que vous la définissez?
Oui.
C'est le nombre de morts occasionnés par un sport, le nombre de blessures avec la route, séquelles, mais on parle de quelles séquelles?
On dit que, par exemple, les anciens rugbyman sont beaucoup plus atteints que le reste de la population par les maladies d'Alzheimer, par exemple.
Je vais vous donner des chiffres, donc.
Ouais.
Donc, il y a effectivement 5 grandes études mondiales qui ont été réalisées sur le sujet. Une sur des anciens joueurs de rugby, une pour des anciens joueurs de football américain et 3 autres ensuite sur des anciens joueurs de football. Et effectivement, ces gens-là, et donc les joueurs de rugby, font plus de maladies neurodégénératives lorsqu'on analyse leur fiche de sécurité sociale par rapport à la population qui vit dans le même environnement. C'est une étude qui a été faite en Écosse sur des anciens joueurs de l'équipe d'Écosse, donc des joueurs de rugby de haut niveau, et ça a été comparé à la population des îles britanniques. Et ce sur-risque de maladies neurologiques, eh bien, donc c'est x2 à x3 par rapport à la population générale. C'est le même au football américain, mais aussi globalement le même au football tel qu'on le connaît chez nous, européens. Donc c'est très probablement les chocs répétés inhérents à la pratique du sport. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes études, elles montrent que les anciens joueurs de rugby, les anciens joueurs de foot américain et de foot, ils vivent plus vieux et en meilleure santé que la moyenne de la population française. Ce qui est un des éléments qui tempère quand même ce constat alarmant, c'est que quand vous vivez plus vieux, évidemment, on vous diagnostique plus facilement d'une maladie neurodégénérative, puisque plus vous avancez en âge, plus elle risque d'arriver. Mais il n'empêche que ce chiffre x2 à x3, qui a été démontré que chez des sportifs de très haut niveau, hein, on parle d'internationaux, de professionnels, il existe.
Alors, on est toujours avec David Broge. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous dans les grandes gueules du sport. J'aimerais qu'on parle aussi des solutions. Et on a parlé de cette évolution dans le monde du rugby ces dernières années, le fameux protocole commotion qui a été donc rendu obligatoire en 2015, qui a été renforcé et qui impose 3 examens aux joueurs touchés pendant et après le match. Il y a plusieurs niveaux d'évaluation. Il y en a un pendant le match, après un choc. Il y a un deuxième niveau d'évaluation réalisé 3 heures après la rencontre. Un nouveau test effectué 48 heures après. Et à la suite d'une commotion, le joueur ne peut pas revenir avant 12 jours. Est-ce qu'il est suffisant, ce protocole commotion tel qu'il est appliqué aujourd'hui, David Broge, ou est-ce qu'il y a des pistes d'amélioration pour éviter les problématiques que peuvent rencontrer les joueurs de rugby?
Désolé si je fais des réponses trop longues, vous m'interrompez. Alors, pour les commotions cérébrales, comprenez bien que c'est une médecine qui est en train de s'écrire. Ses premières descriptions, il y a plus de 2000 ans, la médecine s'en occupe depuis 15 ans. Quoi. Pourquoi ? Parce que classiquement, c'est un problème qui récupère vite et complètement. Quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des situations problématiques et c'est la raison pour laquelle la médecine elle s'est penchée dessus. Quoi. Alors, aujourd'hui, ce que vous voyez sur les terrains, eh bien, traduit un petit peu le dynamisme de la recherche médicale sur le sujet. Donc là, maintenant, on s'est dit, on va enregistrer les chocs. Donc là, OK, c'est effectif depuis cette année. Et effectivement, il y a encore plein de choses que l'on peut faire pour améliorer, quoi. Optimiser bien précisément la durée dont a besoin une personne. Parfois, il a besoin de plus de 12 jours. Et donc, comment on peut l'évaluer le plus finement? Accélérer la récupération du cerveau après un tel événement. Donc là, bon, il y a des choses qui sont à l'étude. Mon collègue, Jean-François Schermal, a été pas mal médiatisé sur le casque de lumière infrarouge. Et puis ensuite, effectivement, éviter que ça réapparaisse, enfin, qu'il y ait limiter le nombre de commotions cérébrales en adaptant les règles, la préparation physique, etc.
Tant qu'un problème de santé existe,
on ne peut pas dire qu'on en fait assez.
Oui, mais on sait aujourd'hui que les collisions, il y a plus de collisions dans le rugby moderne aujourd'hui.
C'est-à-dire que les mecs vont deux fois plus vite qu'à l'époque où ils jouaient, quoi.
Ils sont beaucoup mieux préparés, il y a beaucoup plus de temps de jeu, il y a beaucoup plus de collisions, je le dis, au niveau des impacts. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de réduire le nombre de matchs pour chaque joueur? Est-ce qu'on ne va pas interdire de jouer, de faire des entraînements collectifs? Quand j'entends collectif, c'est
les entraînements
pendant la semaine, parce qu'on sait qu'aussi il y a des joueurs qui attrapent des commotions pendant ces entraînements-là. Est-ce que c'est pas, il y a pas quand même une prévention, aller un peu plus loin, quoi, dans la prévention.
Et l'utilisation d'un casque cuir, par exemple.
Alors le cuir, ça fait rien, il paraît. On m'a demandé.
On m'a demandé à David, là, justement, à David Broge, pour répondre à tes questions et justement aller plus loin sur la pratique du rugby, être encore plus ferme.
Alors, la limitation du volume d'exposition au choc, eh ben oui, c'est une question qui est pleine de bon sens et qui a toute sa place, quoi. Alors, lorsque on parle de sportifs professionnels, eh bien évidemment, nous, les docteurs, il nous faut des gros arguments pour l'opposer aux gens d'en face, c'est-à-dire ceux qui financent ce sport.
Oui.
Mais on se dirige vraiment vers là parce que moi, je fais aussi partie du groupe d'experts World Rugby. Et donc, on a une réunion là au mois d'octobre. Et cette proposition, elle est portée par les médecins de World Rugby. Effectivement, de limiter le volume d'exposition au choc, ce qui inclut effectivement des semaines d'entraînement sans contact et une limitation du nombre de matchs. Donc ça, nous, on l'a écrit. On l'a porté au board. Et avec des arguments
il y a eu des réponses.
Là, c'est en discussion. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on donne, nous, une durée, une peine planchée, si je puis dire, eh bien, la réponse en face, c'est « Ok, pourquoi, comment vous pouvez me dire scientifiquement qu'il faut faire 12 semaines de rugby sans contact et pas 10 ou pas 14 ?» Donc, voilà. Mais en tous les cas, sur le plan médical, oui, on est assez à l'aise pour dire on a quand même pas mal de données pour limiter l'exposition au choc.
Christophe, c'est sûr.
Juste parce que là, tous les cas qui apparaissent aujourd'hui sont les cas de joueurs qui ont évolué dans les années 80, 90, 2000, à l'époque où il n'y avait pas de protocole commotion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'avec toutes les mesures qui ont été mises en place, on aura dans 10, 20 ans autant de cas qu'actuellement, ou justement ces mesures vont permettre de diminuer le nombre de cas de d'anciens joueurs victimes de problèmes de mémoire, de problèmes au cerveau?
Je ne peux pas vous répondre avec certitude, c'est une équation à trop d'inconnus. D'abord, on ne sait pas l'ampleur réelle du phénomène chez les gens qui ont joué il y a 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place, on a du mal à en évaluer l'efficacité. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous le voulez bien.
Oui.
En fait, ces athlètes-là qui ont le cerveau qui a souffert d'avoir été exposé à plein de chocs répétés à la tête, eh bien aujourd'hui, ce que fait la médecine, quand un joueur comme Sébastien Chabal passe le cabinet de la porte de consultation, c'est de collecter un faisceau d'arguments pour essayer de relier les troubles qu'il allègue à une exposition répétée à des chocs à la tête. Mais je suis désolé de devoir vous le dire, mais aujourd'hui, la médecine ne permet pas de poser le diagnostic à 100%. La seule façon qu'on a de dire ce boxeur, ce rugbyman, ce joueur de foot a eu des conséquences neurologiques, c'est une fois qu'il est décédé, quand on autopsie son cerveau. Ça, c'est le film que vous avez dû tous voir, je pense, avec Will Smith. Mais donc, aujourd'hui, lorsque les gens viennent me voir, comme ça, c'est l'une des premières choses que je leur dis. Je leur dis, on va faire un état des lieux le plus poussé qu'il est possible de faire en 2025, mais je ne pourrais pas te donner une réponse formelle. Il y a un plus ou moins haut degré de probabilité. Et donc, pour répondre à votre question, il nous faudrait avoir un examen complémentaire solide pour mesurer l'efficacité des mesures prises. Néanmoins, il y a des choses qu'on va mettre en place et si à un moment vous m'en laissez l'occasion, je vous expliquerai quoi.
Oui. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment. On va, dans un instant, continuer de parler de tout ça avec le témoignage de Philippe Dintrans. On vous remercie beaucoup, David Broche, d'être passé dans les grandes gueules du sport pour nous éclairer sur ce sujet. Merci beaucoup.
Merci.
Vous pourrez retrouver, évidemment, aussi les interviews du docteur David Broche, neurochirurgien à Toulouse, sur rmcsport.fr. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.